Voilà, bonjour. Je suis content de me trouver là devant vous et puis là en particulier, je pense à ceux qui écoutent sur Internet aussi. Très content de vous avoir et vous êtes nombreux là. Nous allons aujourd'hui continuer notre étude, cette série d'études concernant la croix de Christ, basée sur ce verset de 1 Corinthiens 1, 23 qui nous dit: Nous, nous prêchons Christ crucifié. Ça, c'est toujours notre thème principal et c'est la vérité principale de notre vie, de la chrétienté, de l'évangile, tout est basé là-dessus. Mais aujourd'hui en particulier, c'est notre deuxième étude et c'est sur le renoncement à soi. Et Jésus, sur la croix, a renoncé à lui-même. Dimanche dernier, nous avons terminé avec ce verset tiré de Jean chapitre 12 et les versets 24 à 26 qui dit: En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc, comme je viens de dire, nous avons terminé la prédication de dimanche dernier avec ce verset qui, justement, eh bien, nous présente le renoncement de Jésus, hein, il était prêt à, comme le grain de blé qui est semé en terre et qui meurt, afin de porter du fruit. C'est un renoncement à soi. Et pour Christ, c'était le renoncement, la croix, c'était le renoncement à soi au plus haut degré. Et l'apôtre Paul, qui justement a dit que son thème, c'était Jésus-Christ crucifié, eh bien, dans sa lettre aux Philippiens, leur dit d'avoir en eux les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous allons lire donc Philippiens chapitre 2 et les versets 5 à 11. Et nous voyons là le récit du renoncement de Christ afin de mourir sur la croix, mais aussi qu'il sera glorifié. Donc Philippiens chapitre 2 et au verset 5. Il nous dit: Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, ou c'est-à-dire comme une chose à retenir à tout prix. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La première question que nous allons, à laquelle nous voulons répondre, c'est le quand est-ce que Jésus a fait ce renoncement à soi? Ce renoncement à la gloire du Père et au bénéfice de l'humanité. Ces sentiments qui lui ont permis de renoncer à soi, de quitter les lieux célestes pour devenir homme sur la terre. Eh bien, c'était un choix qu'il a fait quand il était encore dans les lieux célestes et dans la gloire. C'est avant de devenir homme. C'est comme vous connaissez bien l'histoire d'Abraham qui avait déjà sacrifié son fils dans la tente, dans un sens, dans son cœur en tous les cas. Dieu lui a demandé, lui a dit, écoute, tu m'offriras ton fils en sacrifice. Et dans un lieu qui était à 3 jours de marche. Mais avant de partir, Abraham, je suppose qu'il n'a pas dormi de la nuit, et que pendant cette nuit-là, Eh bien, en fait, dans son cœur, il a donné son fils à Dieu. Mais certainement qu'il lui a dit, écoute, c'est le fils de la promesse, tout repose sur lui. Si tu me demandes de le sacrifier, je le ferai, mais j'ai confiance en toi. Et il nous dit même dans Hébreux chapitre 11, il nous dit que c'est par la foi qu'il l'a fait. Donc Abraham, dans un sens, il a sacrifié son fils avant même d'entreprendre le voyage. Et parce qu'il avait déjà réglé la chose dans son cœur, dans la tente, quand il était seul, eh bien le lendemain, il a pu partir avec son fils et marcher d'un pas sûr et jusqu'au lieu, hein, sans hésiter. Et c'était tellement réglé dans son cœur, c'était tellement fait, que même quand son fils, en cours de route, lui dit, mais papa, nous avons oublié l'agneau que nous devons sacrifier. Il a pu répondre, et l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est par la foi qu'il a répondu, mais il a pu répondre, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Donc, il a pu le faire parce que il avait déjà décidé dans son cœur. Ça a été déjà fait dans son cœur. Donc, quand il fallait exécuter, il n'y avait plus d'hésitation. Et Jésus lui-même s'est dépouillé lui-même au ciel. Le mot dépouillé, c'est le mot qu'on emploie en français. Dépouillé, on sait ce que ça veut dire. Hein, on est complètement vidé. Hein, c'est le mot qui est employé en grec. C'est le mot vidé. Il s'est vidé. Vous avez peut-être parfois eu le sentiment d'être vidé, hein, comme un torchon qui est là par terre. Mais il nous dit qu'il s'est dépouillé, il s'est vidé, afin de devenir homme par une naissance naturelle. La croix n'était pas un événement imprévu, pas plus que le sacrifice d'Isaac. Hein, c'était, quand ça s'est fait, c'était projeté, c'était déjà dans la pensée, dans le cœur. En fait, Jésus a pris cette décision, mais c'était une décision finalement du conseil divin, de Dieu dans sa Trinité, hein, de le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc ce conseil divin. Et il nous dit dans Éphésiens chapitre 1, et je vais lire les versets 9 à 12, et vous verrez comment ça a été décidé. Je lis, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Quand la Bible parle de mystère, ce n'est pas tout à fait le même sens que lorsque de nos jours on parle de mystère. Un mystère, c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne sait pas expliquer, c'est bizarre. Tandis que quand le Nouveau Testament nous parle d'un mystère, c'est une chose qui ne pouvait pas être connue sans que ce soit révélé. Et donc les mystères de Dieu, ce sont ces choses que seul Dieu a pu nous révéler pour que nous le sachions. Donc il nous dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les jours seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc, sans expliquer tout ce qu'il y a dans ce passage, mais ce que nous comprenons, c'est que ce plan de salut en Christ, dont nous sommes les bénéficiaires, eh bien, c'est une décision qui a été prise par le conseil divin. Et il nous dit même dans les versets 4 et 5, il nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc c'est une décision qui a été prise avant la fondation du monde, donc avant que l'homme soit créé, avant que l'homme pèche. C'était une décision qui a été prise de manière à ce que ça ne dépende aucunement de ce que l'homme aurait pu ou a pu faire. C'était déjà décidé. Et donc, c'est une grâce. Et une grâce n'est une grâce que si on n'en est pas digne. Hein, sinon, c'est un dû. Mais si on n'est pas digne, c'est une grâce. Et donc, c'est par la grâce que Dieu nous a inclus dans un plan de salut qu'il a préparé avant la fondation du monde. C'est en Christ que nous avons été élus, pas en nous-mêmes, hein, c'est en lui, parce que en dehors de lui, eh bien, nous n'avons aucune existence ni moyen d'exister, mais c'est en Christ. Et donc tout ce premier chapitre, ce début du premier chapitre d'Éphésiens nous dit tout ce que nous avons en Christ, hein, et en particulier notre salut. Bien sûr, et il nous dit que nous avons été prédestinés. Quand on est prédestiné, on est toujours prédestiné à quelque chose. Et il nous dit que nous avons été prédestinés à être des saints et irréprochables. C'est-à-dire, un jour, nous serons saints et irréprochables. Et comme il nous le dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 27, et il nous dit que Jésus-Christ nous fera paraître cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et donc, c'est son objectif. Il a fait un choix, il avait un objectif et il s'est donné les moyens de le réaliser. Avant, et nous, on n'intervient nulle part. L'homme doit répondre à l'offre de la grâce. La grâce, ça s'offre, ça ne s'impose pas. La grâce présidentielle, elle est proposée et c'est au coupable de le recevoir. La grâce de Dieu, c'est à nous de le recevoir. Sinon, ça ne peut pas, ça n'a aucun effet, ça n'a pas de pouvoir. Et donc, quand le Saint-Esprit agit dans notre cœur et que nous arrivons à cette conviction de péché, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas dignes, nous ne pouvons pas espérer recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu, eh bien, quand on arrive à ce point-là dans notre cœur, eh bien, le plan est proposé, nous dit, ben, Jésus a tout fait, il suffit que tu demandes et il te pardonne et tout est effacé, tout est oublié. Et donc, quand j'ai cette conviction de péché, quand j'ai cette compréhension du fait que je n'ai plus rien, et on m'offre quelque chose de si extraordinaire, eh bien, c'est, pour ainsi dire, irrésistible, c'est incontournable, il n'y a pas d'autre option, et on accepte le plan de Dieu. Il faut comprendre que la Trinité divine intervient dans tout le salut, à tous les niveaux. C'est-à-dire pour ce qui est du Père céleste, nous avons été sauvés quand nous avons été choisis en Christ avant la fondation du monde. C'est là que pour lui, dans sa tête, hein, j'emploie le langage humain, mais c'est là que ça a été, il a dit, j'ai décidé que je vais les sauver, et donc, dans sa tête, nous sommes sauvés. Mais cela ne suffit pas pour que nous soyons sauvés. Parce qu'il a voulu cela pour tous les hommes, mais tous les hommes ne sont pas nécessairement sauvés. Donc pour le Père, il nous considère sauvés depuis le jour où il a pris cette décision avant la fondation du monde. Pour ce qui concerne le Fils, Jésus-Christ, eh bien nous avons été sauvés quand il est mort sur la croix. Pour lui, c'était inconcevable qu'on soit considéré comme sauvé avant qu'il ne meure. C'est seulement lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il a pu dire tout est accompli, eh bien, c'est à ce moment-là que le salut était possible. Donc, pour ce qui concerne Jésus-Christ, eh bien, c'est au moment de la croix, quand il a rendu son esprit, eh bien, nous avons été sauvés. Mais cela ne suffit pas pour être sauvé, parce que tous ne sont pas sauvés parce que Christ est mort sur la croix. Pour ce qui concerne le Saint-Esprit, nous avons été sauvés lorsque, en réponse à son œuvre de conviction de péché, nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, afin d'être régénérés. Hein, voilà, c'est. Donc, pour ce qui concerne la troisième personne de la Trinité, c'est lorsque lui a pu faire son œuvre, le Père a fait ce qui dépendait de lui, c'est ce choix dans les lieux célestes. Le Fils a fait ce qui dépendait de lui, il est mort sur la croix. Le Saint-Esprit a fait ce qui dépendait de lui, c'est qu'il a travaillé dans mon cœur pour me donner cette conviction de péché. Et quand j'ai pris conscience de cela, quand j'ai compris, quand j'ai répondu, eh bien, à ce moment-là, je reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et je suis régénéré, et d'où l'expression de cette nouvelle naissance. Donc, ce qui a été entamé dans le passé est une réalité dans le présent et se continuera et continuera jusque dans l'éternité. C'est sans, on pourrait parler longtemps là-dessus, mais en résumé, c'est exactement cela. Donc en fait, c'est lorsque la Trinité ont mis en place ce projet, avant la fondation du monde, eh bien c'est à ce moment-là que le Fils dit, moi, eh bien je suis prêt à aller sur terre et mourir comme un homme pour les sauver. Donc le renoncement à soi, ça a été fait alors qu'il était encore dans la gloire, qu'il était dans les lieux célestes, qu'il avait accès à tout, et c'était un libre choix, et il l'a fait avant la fondation du monde, avant la chute, et il l'a exécuté, quand les temps furent accomplis, comme il nous dit dans Éphésiens 1:10. Donc, comprenez ce principe de le renoncement à soi, c'est une chose qui se fait d'abord dans le cœur, avant de se faire dans les actes. Le baptême d'eau, par exemple, est aussi un renoncement à soi, parce qu'il signifie une mort à soi-même et une résurrection pour une vie nouvelle. Mais en fait, le choix de se faire baptiser, s'est fait dans le cœur bien avant le jour du baptême, par immersion. Il nous dit dans Romains 6, 3 à 6, il dit eh bien, en fait, lorsque nous avons cru, nous nous sommes identifiés à Christ dans sa mort. Et dans sa résurrection, c'est une chose qu'on a compris, qu'on a reçue dans le cœur. Et en fait, le jour du baptême, lorsque nous avons été plongés dans l'eau et nous sommes relevés, en fait, c'était pour annoncer publiquement ce qui s'était déjà fait dans le cœur. Donc le choix a été fait dans le cœur par avance et réalisé au moment du jour du baptême. Et c'est un témoignage de ce qui s'est passé dans le cœur. Le renoncement à soi est un choix qui se fait donc avant sa mise à exécution. Si vous avez du mal à vous décider à faire le bon choix chaque fois qu'une situation se présente, vous êtes là, vous êtes confronté, j'ai envie, j'ai pas envie, je veux le faire, je veux pas le faire, et si chaque fois que vous êtes obligé de vous battre avec vous-même et de tergiverser dans votre cœur, eh bien, c'est que le renoncement à soi n'a pas été décidé. Et donc, à chaque fois, c'est un nouveau combat. Tandis que si cette décision de renoncer à soi a été réglée dans le cœur une fois pour toutes, après, c'est ça qui décide. Chaque fois qu'une situation se présente, ben c'est déjà décidé. C'est un peu ce que nous avons vu dans Proverbes chapitre 2, lorsque Salomon parle à son fils et lui dit, écoute, choisis la sagesse de Dieu, recherche la sagesse, cours après la sagesse, recherche la sagesse comme on recherche un trésor. Il dit ça dans les premiers quatre versets du Proverbes chapitre 2. Et puis au verset 8 et 11, il nous dit, parce que ce sera une protection pour toi. Parce que par la suite, eh bien, lorsque la tentation arrivera, lorsque les suggestions seront là, lorsque les opportunités seront là pour faire autre chose, eh bien, il n'y aura pas à réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est déjà décidé. Je sais quel chemin je prends et je sais donc si j'ai décidé quel chemin je ne prends pas. Et l'enfant de Dieu qui a déjà fait cette décision dans son cœur, de renoncer à lui-même et de marcher pour le Seigneur, Eh bien, celui-là, eh ben, la vie chrétienne, c'est plus une question de ah, est-ce que c'est permis, c'est pas permis, est-ce qu'on va me voir, on va pas me voir, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? Non, non, c'est déjà décidé. Hein, si je vais à l'église tous les dimanches, c'est parce que j'ai décidé, déjà il y a longtemps, j'ai décidé que tous les dimanches je serai à l'église. Et donc ce n'est plus un problème. Hein, c'est celui qui n'a pas envie d'aller à l'école, ben, chaque jour c'est un fardeau de se réveiller. Celui qui n'aime pas son travail, ben, c'est pénible chaque matin d'aller au travail. Mais celui qui est heureux dans son travail et c'est ce qu'il veut et il sait où ça va le mener, ben lui, le matin, c'est pas un problème, il se lève et il y va, hein. Et c'est pareil, c'est le même principe dans notre marche chrétienne. Et donc, le choix, Jésus a fait le choix bien avant la fondation du monde, et lorsque, la veille de sa crucifixion, il ressentait toute l'angoisse que peut ressentir le corps humain face à la mort, il a pu dire, mais mon Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que c'est déjà décidé, je fais ta volonté. C'était tout son ministère, c'était Père, je fais ta volonté, je ne fais que ta volonté. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. C'était déjà décidé, c'est pas un combat, c'était le corps résistait parce que le corps n'a jamais été créé pour mourir. Donc c'est une souffrance que de mourir. Mais lui, en lui-même, c'était plus une question, c'était déjà décidé. Donc le choix du renoncement est fait par avant, chez Christ et aussi pour nous. Les implications de ce choix, hein, ce renoncement, bien sûr, c'est pas s'il y a un, ça représente quelque chose. Il y a un prix, il y a un choix à exécuter. Pour Jésus, comme on vient de le dire, il a dû se vider pour comprendre ce que c'est, un peu vous donner une petite idée de ce que veut dire se vider. Imaginez le roi Salomon qui était riche, qui avait tout pouvoir. Qui suffisait de dire un mot et puis il l'avait, qui un jour décide de devenir un simple artisan, démuni de tout, et de marcher dans son royaume, mais sans jamais dire qu'il était Salomon, mais en prétendant être un artisan, un charpentier par exemple, et qui cherchait du travail parce qu'il n'avait pas d'argent. Eh bien, il serait obligé de renoncer, de plus faire appel à tous les droits qu'il avait en tant que roi. Il pourrait pas donner d'ordre à quelqu'un pour exécuter sa volonté. Rien ne se ferait pour lui sans qu'il le fasse lui-même. Il ferait pas appel à sa sagesse. Il ferait comme si il connaissait rien. S'il veut faire exact comme Jésus, ben il faudrait qu'il le fasse pendant 30 ans, vous imaginez. Jésus, lui, il en a mis plus de côté que ce que Salomon serait obligé de mettre de côté. Il a dû mettre de côté beaucoup de ce qu'il pourrait faire pour devenir homme. C'est-à-dire, tout ce qui l'empêcherait de devenir un homme ordinaire. Eh bien, il a dû mettre de côté. Parce qu'il nous dit dans Philippiens 2,7, et nous l'avons lu, il a paru comme un simple homme, un vrai homme. Et tellement qu'il l'était, qu'il a été traité comme un homme par ses compatriotes. Et lui, il s'est placé dans une soumission totale, alors qu'il n'était pas inférieur. Il est inférieur en rien par rapport au Père, mais toujours il disait, non pas ma volonté, mais la tienne. Et pourquoi était-il jusqu'à ce point? Eh bien, nous dit Hébreux 12, 2, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Donc en fait, il y a un renoncement. Parce qu'il y a qui permettra de passer par un passage difficile, mais en vue d'une chose glorieuse après. Et donc, parce que il voyait l'aspect glorieux qui serait l'aboutissement, eh bien, il a pu souffrir la croix, mépriser l'ignominie et l'humiliation que cela a coûté. Et le résultat, eh bien, c'était en fait qu'il a été glorifié au plus haut point. Et sa gloire était encore plus glorieuse, si on pouvait dire, qu'elle n'était avant, parce qu'il y avait une raison supplémentaire. C'était qu'il avait exécuté, il avait racheté tous ses pécheurs. Hein, la rédemption des pécheurs était encore une chose supplémentaire qui s'ajoutait à sa gloire. Après la croix, sa gloire était encore plus grande que ce qu'elle n'était avant. Et quand je lis tout le verset de Hébreux 12, verset 2, il nous dit « Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hein, » Donc il a été glorifié. Et c'est ce qui a été, ça avait été annoncé 700 ans plus tard par Ésaïe le prophète. Hein, dans Ésaïe 53 et verset 12, nous dit « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Donc, cette gloire, le fait d'être glorifié, et là il nous dit dans Éphésiens chapitre 2, il nous dit aussi, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, hein, au verset 9. Et donc, c'est tout à fait, c'est le principe, c'est la pensée. Il y a eu un renoncement avant l'œuvre, ensuite il y a une fidélité et une exécution du projet, de la tâche, quel que soit le prix, et ensuite il y a la gloire. Et aussi, il y a un troisième point que je veux souligner, là, c'est que le fait du renoncement ne diminue pas la personne. Si Salomon avait fait ce qu'on a imaginé tout à l'heure, de devenir un artisan ordinaire, simple, sans trop de connaissances, illettré, eh bien, il serait quand même toujours fils de David. Et par naissance et par onction, eh bien, il serait toujours roi d'Israël, même si ça ne se voyait pas. David lui-même avait été loin 10 ans avant de devenir roi. Et il était, de toute apparence, il n'était qu'un fugitif qui fuyait Saül. Mais en fait, il était roi, il était déjà loin roi. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on renonce à soi-même qu'on devient quelque chose de moindre. Et Jésus, en renonçant à ses droits et ses privilèges divins pendant un temps, n'a pas cessé d'être divin, n'a pas cessé d'être Dieu. Sa nature est restée intacte. La preuve, c'est que sur la montagne de Transfiguration, eh bien, sa chair a été écartée et les disciples ont vu pendant quelques instants, ils ont vu sa gloire. Donc, il était toujours ce qu'il avait été, ce qu'il était depuis toujours. Hein, et ce n'est pas certain, parce qu'ils l'ont vu seulement comme un homme, et pensent qu'il n'était qu'un homme. Mais en fait, il ne paraissait être qu'un homme, mais il était toujours Dieu. Lui-même l'a affirmé, sa divinité. À l'âge de 12 ans, quand il est allé au temple pour la première fois, il a dit à ses parents humains, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Lui, il était déjà conscient que Dieu était son père. Et donc, si Dieu était son père, il était divin. Saint Luc chapitre 2, 49. À son baptême, eh bien, il y a cette voix du ciel qui déclare à tous ceux qui veulent entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et pour qu'on se trompe pas et qu'on ne pense pas que ce soit Jean-Baptiste, eh bien, il y a une colombe qui est descendue, qui s'est posée sur l'épaule de Jésus. L'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe et dit, c'est lui, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous trouvons souvent hein, que même les démons ont déclaré que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Hein, dans Matthieu 8, 29, eh bien, il le déclare Fils de Dieu. Et même les Juifs ont compris qu'il se faisait égal de Dieu. Parce qu'il nous dit dans Jean chapitre 5 verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, et en se faisant lui-même égal à Dieu. Donc ils l'ont compris, il y avait toutes les raisons de savoir, il n'y avait que ceux qui ne voulaient pas le croire, qui ne l'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas fait attention, c'est tout, mais sinon lui, il reconnaissait sa divinité. Et pendant tout son ministère, même si de toute apparence, il n'était qu'un simple homme, et il se comportait comme un simple homme. C'est pas parce qu'on renonce à soi, qu'on est moins que ce que nous sommes. Renoncer à soi pour Dieu ne diminue en rien ce que nous sommes, bien au contraire. Saul, qui est par la suite devenu apôtre, et donc a pris le nom de Paul, a renoncé à ce qu'il était avant dans le judaïsme. Il nous dit là dans Philippiens chapitre 3, les versets 4 à 7, il nous dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi. Circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi, pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la loi, de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Vous voyez, Paul, à un moment quand il a cru, eh bien, il a mis de côté tout ce qui était d'une valeur pour lui. Jusque-là, ben, il était fier du fait d'être un juif et d'être un pharisien de la tribu de la secte la plus stricte du judaïsme. Et il en faisait un cas. Il était tellement zélé qu'il était prêt à mettre à mort et mettre en prison tous ceux qui refusaient de suivre le judaïsme. Mais il a renoncé à tout cela. Et il l'a considéré comme de la boue afin de gagner Christ. Et parce qu'il a préféré accéder à ce qu'il serait en Christ. En Christ, eh bien, il parle ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et pour lui, il a tout laissé, mais c'est un choix, c'est une décision qu'on fait. Et tant qu'on n'a pas fait cette décision de suivre Christ, eh bien, la vie chrétienne est pénible, parce que constamment, c'est un combat. C'est comme celui qui n'a pas décidé d'être un bon élève, eh bien, lui, chaque fois, chaque soir qu'il a des devoirs à faire, et il décide, je fais les devoirs, je ne les fais pas, j'ai envie, j'ai pas envie. Parce qu'il n'a pas encore décidé d'être un bon élève. Mais celui qui a déjà décidé d'être un bon élève, de réussir, eh bien, pour lui, ce sont des moyens qui lui permettent d'y arriver. Et donc, mais y a une décision à faire. Et donc, le chrétien qui n'a pas fait ce choix, eh bien, pour lui, la vie chrétienne, eh bien, c'est pénible. C'est pénible, c'est un combat tout le long. Et dire, ah, que c'est dur, pauvre de moi, je suis chrétien, j'aime le Seigneur, mais bon, c'est vraiment dur. Tandis que l'apôtre Paul, il se plaint jamais de la marche, de la vie chrétienne. Il a souffert, mais il a souffert de la part de ceux qui n'aimaient pas le Seigneur. Il a eu beaucoup de tristesse à voir comment certains chrétiens se comportaient. Mais sinon, pour lui, sa relation avec le Christ, il n'a jamais regretté, il n'a jamais exprimé un regret. Lui, parce que lui, c'était décidé pour la vie. Et donc, c'est ce que nous avons à faire aussi, c'est de prendre cette décision, de dire, moi, dorénavant, c'est pour Christ que je vis, ce n'est plus pour moi-même. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, disait l'apôtre Paul. Et donc, je prends cette décision. Après cela, c'est juste une question de est-ce que c'est compatible avec la décision que j'ai prise ou c'est pas compatible? Et je pars, c'est tout, c'est déjà décidé. Et donc, il y a ce renoncement et ce qui va faciliter la marche chrétienne. Et donc, je reviens à ce verset qu'on a lu tout au début. On aime bien l'appliquer à Christ, dire oui, c'est extraordinaire le grain de blé qui meurt, et puis après ça donne tout un épi rempli de grains. C'est extraordinaire, et Christ est mort, et puis beaucoup ont pu croire à cause de cela. Et oui, mais c'est à nous, il est notre modèle, nous devons suivre comme lui. Et donc il y a ce moment où je meurs à moi-même afin de produire du fruit pour lui à sa gloire. Et donc je relis ce verset de Jean chapitre 12, versets 24 à 26. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Que le Seigneur nous aide à saisir ces vérités. D'abord, le remercier pour cette initiative que lui a prise à notre égard et dans notre intérêt. Le prix qu'il a payé pour que nous soyons sauvés. Et maintenant que nous avons accès à ce salut, eh bien, à nous de faire comme lui, aussi de renoncer à nous-mêmes et nos passions charnelles et nos ambitions charnelles, et de vivre pour lui, dorénavant. Et là où est Jésus, là aussi sera mon serviteur. Que le Seigneur nous aide à faire ce choix. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, si vous n'avez pas reçu, hein, tout à l'heure on parlait du Saint-Esprit qui fait cette œuvre dans le cœur. Lisez la parole de Dieu. Prenez l'évangile de Jean. Laissez le Saint-Esprit vous aider à comprendre combien l'être humain ne mérite pas le paradis. La vie éternelle. Et qui nous aide à comprendre qu'il n'y a aucun autre moyen de salut. Dieu n'a rien prévu d'autre. On peut inventer des moyens, mais ça ne réussit pas, hein, si ce n'est pas lui qui l'a. Hein, c'est le propriétaire de la maison qui décide où est la porte d'entrée. Et donc, c'est à nous aussi de savoir où se trouve cette porte. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que le Seigneur vous dirige dans vos pensées, conduites, et aussi, n'hésitez pas de renoncer à vous-même, comme l'apôtre Paul, et de vivre dorénavant pour Christ. La vie sera beaucoup plus remplie, vous savez, votre vie chrétienne sera épanouie, et vous connaîtrez cette joie que Jésus donne et cette paix que nous avons dans le cœur. Mes prières sont avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Amen.